On parle de musique, on parle aussi de politique à l'occasion d'une table ronde qu'organise ce vendredi 13 juin à Amiens le SMA, le syndicat des musiques actuelles, un syndicat qui regroupe 600 structures de la filière musiques actuelles, salles de concert, festivals, producteurs de spectacles, labels, radio assos, etc. Alors par téléphone, on a contacté Aurélie Andouche qui est directrice du SMA, elle nous parle de quelques-uns des travaux et projets du syndicat.
Alors, le travail du SMA consiste à accompagner ses adhérents, que ce soit de manière individuelle ou collective. Donc, on a par exemple en interne une permanence juridique pour assurer l'information et le conseil auprès de nos membres sur les sujets d'ordre sociaux, fiscaux, voilà, tout ce qui est conseil juridique. On représente aussi nos membres dans les négociations des conventions collectives. Comme on a fait le choix d'être un syndicat de filière, on négocie plusieurs conventions collectives dans le spectacle vivant subventionné, dans le spectacle vivant marchand et puis aussi dans l'édition phonographique. On les représente aussi au Centre national de la musique et puis dans les instances qui ont trait à la formation professionnelle. Et en effet, enfin, on représente et on défend les intérêts du secteur de la filière des musiques actuelles auprès de la puissance publique, donc que ce soit auprès du gouvernement, mais aussi auprès des différentes natures de collectivités, que ce soit les villes, que ce soit les régions, que ce soit les départements, pour faire en sorte que les musiques actuelles soient toujours mieux prises en compte dans les politiques publiques.
Alors le SMA a 20 ans cette année déjà. J'imagine une année où va être aussi question des coupes budgétaires pour certains acteurs des musiques actuelles. Et puis aussi un gros chantier, c'est la meilleure prise en considération des enjeux écolo dans la musique.
Tout à fait. Alors si on parle effectivement des enjeux là de 2025, donc l'année de nos 20 ans, ils sont nombreux et je pense qu'on n'imaginait pas la création du syndicat que 20 ans plus tard, le contexte serait aussi compliqué pour le secteur qu'on représente. En effet, vous avez parlé des coupes budgétaires, donc on a pu sortir une étude au mois d'avril sur l'ensemble des coupes budgétaires. Notre objectif, c'était de donner à voir ce qu'on pouvait entendre ça et là et de manière partielle, c'est-à-dire une coupe dans tel département, dans telle ville, dans telle région. Et notre objectif, c'était de regrouper en fait l'ensemble de ces coupes pour avoir une vision plus globale, plus macro de ce que ça représente dans l'ensemble. Et notamment, on a pu sortir un chiffre, c'est que déjà au mois d'avril, on pouvait noter qu'on a accusé une baisse de plus de 65 millions d'euros de baisse de la part des régions sur les financements culturels, ce qui est colossal. Et on fera bientôt une mise à jour de cette étude parce que à date à laquelle on a sorti l'étude, donc au mois d'avril, l'ensemble des collectivités n'avaient pas encore voté leur budget, donc on n'avait pas de visibilité par exemple sur un chiffre global pour les départements et pour les villes. Donc ce sera important de mettre ça à jour. Effectivement, dans les autres enjeux, on a aussi les questions écologiques pour la filière des musiques actuelles. On a monté un projet de ça il y a 3 ans qui s'appelle Déclic. Décarbonons le live collectivement. Et donc l'objectif, c'était d'arriver à dresser un bilan carbone type pour la filière des musiques actuelles, que ce soit pour les producteurs de spectacles, que ce soit pour les festivals ou les salles, pour montrer en fait ce qui est le plus impactant dans notre filière. Et après avoir réalisé 18 bilans carbone sur un échantillon test, un panel représentatif, on voit que le principal impact, c'est bien la mobilité des publics, donc le déplacement des publics quand ils vont en festival, quand ils vont en salle de concert. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on concentre nos efforts. Évidemment, nous ne pouvons pas faire cela seuls, puisque nous ne sommes pas responsables des autorités de transport. Donc pour nous, maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à travailler main dans la main avec les autorités qui sont compétentes en matière de transport, donc bien souvent les villes, les métropoles, pour arriver à discuter et à trouver en fait des pistes pour améliorer en fait la mobilité des publics et puis donc par là même réduire l'impact carbone de la filière. On est bien d'accord que l'impact carbone, ça n'est qu'un aspect de l'impact écologique de notre secteur. On commence aussi à travailler sur les questions de biodiversité, sur les questions de réutilisation, de durée, sur les questions aussi de cycle de vie. Donc on a un champ assez large à balayer, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et donc c'est cette entrée-là qu'on a choisi de commencer à travailler pour être relativement dans le concret.
Alors récemment, vous avez édité une cartographie des 10 plus importants opérateurs privés dans la chaîne de valeur des musiques actuelles en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche, de quoi ça s'inspire aussi?
Alors en fait, c'est la troisième mise à jour de cette cartographie que nous avons publiée là le 20 mai dernier, tout à fait. La première édition avait eu lieu en 2020, la seconde, la deuxième en 2022. Et donc là, il nous a paru nécessaire en 2025 de refaire un nouvel update parce que les choses ont beaucoup bougé. Donc en fait, ce travail il a été réalisé par un chercheur qui s'appelle Mathieu Barrera. Et donc, Mathieu s'est inspiré en fait du travail qui avait été réalisé par le monde diplomatique et la CRIMED sur justement les principaux propriétaires dans le monde de l'édition, qui est donc réalisé de ce côté-là. Donc, on a ce même système de cartographie avec qui possède quoi dans le secteur de la musique. Cette fois-ci, on n'est plus dans le monde de l'édition, on est bien dans le secteur des musiques actuelles. Et en l'occurrence, dans cette nouvelle édition, on voit qu'on n'a plus non plus six personnalités hommes qui détiennent une bonne partie de la chaîne de valeur, mais 10, avec des hommes français, d'autres américains ou européens, qui vont détenir une bonne partie de la chaîne de valeur dans la musique. Alors, on peut à la fois parler d'intégration verticale, puisque en fait, ces entreprises-là vont détenir les différents maillons de la chaîne. Donc, on peut parler par exemple de la billetterie, mais aussi des médias, mais aussi de la production d'artistes, de la diffusion dans les salles ou dans les festivals. Voilà, donc on voit que toute la chaîne de valeur est détenue, donc on peut parler d'intégration verticale. Et puis on peut aussi noter une concentration cette fois plus horizontale, parce qu'on note aussi que certaines de ces entreprises, certains de ces hommes vont avoir tendance à racheter d'autres entreprises de la chaîne pour faire grossir leur propre entreprise. Et donc là, on va assister à un phénomène de concentration plus horizontale, donc le fait de racheter ses concurrents. Donc on a un double phénomène de concentration. Alors c'est assez inquiétant à notre sens, dans le sens où ces 10 personnalités vont détenir une bonne partie de la chaîne de valeur. Quand elles détiennent, par exemple, la production d'artistes, ça va avoir effectivement un impact sur l'ensemble des festivals ou l'ensemble des salles de concert en France, puisque ce sont elles qui vont fixer les prix. Et puis, en détenant toute la chaîne de valeur jusqu'à la billetterie, ça va leur permettre aussi de fonctionner en circuit fermé, de fixer les prix. Et on tend clairement vers un système oligopolistique, une sorte d'oligopole à franges. On n'est pas encore dans un monopole, certes, hein, l'autorité de la concurrence l'avait dit il y a quelques années, mais tout laisse à penser qu'on y va de plus en plus. Et donc notre propos est de donner à voir en fait la situation actuelle, de montrer l'état du secteur, pour qu'on puisse, en débattre, en discuter et voir ce que nous devons en faire et ce que nous devons tirer comme enseignement en fait de cet état des lieux.
Le message aussi s'adresse, j'imagine, aux auditeurs, aux auditrices, aux spectateurs, spectatrices, les gens qui vont dans des concerts, des festivals, en disant bah voilà, regardez où vous mettez les pieds. C'est pas la même chose d'aller dans un festival autogéré que dans une grosse machine. Il me semble, la Ferrarock a édité aussi un petit mot à propos de votre cartographie qui dit quelque chose comme la fête est politique.
Exactement. Mais j'ai envie de faire le comparatif avec, par exemple, le secteur de l'alimentation. On sait tous et toutes que d'aller faire ses courses dans une grande surface, ça n'est pas la même chose que d'aller chez un épicier, une épicière indépendante. On sait où on met notre argent et on sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on va aller acheter chez un producteur sur le marché et on sait pourquoi on va aller acheter dans la grande distribution. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est de conscientiser les choses, que le public sache où il met les pieds. C'est exactement ce que vous dites. L'argent est politique. Et donc, c'est vraiment notre objectif avec cette cartographie, c'est de conscientiser en fait les publics, mais aussi les élus, les artistes, pour que chacun ait bien conscience de la situation et de se dire qu'effectivement, d'aller fréquenter un festival indépendant et associatif qui va avoir pour seul but la mise en avant d'artistes, le fait de proposer pour un territoire et pour ses populations un projet, bien sûr, il va falloir équilibrer le modèle économique du festival. Hein, on est bien conscient qu'on n'est pas hors sol, mais ça n'est évidemment pas du tout la même chose que d'aller dans un festival qui appartient à un groupe et dont le but du groupe est de générer du profit in fine. Donc voilà, c'est vraiment le propos de cette cartographie. C'est emparez-vous du sujet, faites attention où vous allez, regardez où vous mettez votre argent, et puis ensuite faites vos choix en conscience.
Suite de notre entretien par téléphone avec Aurélie Andouche, directrice du SMA, le syndicat des musiques actuelles. Puisqu'on parle d'appropriation capitalistique du secteur de la musique, je ne sais pas si vous avez un discours par rapport aux plateformes musicales, parce que bon, à la fois, ça a pu être aussi une réponse au piratage et à des choses comme ça, mais en même temps, il y a aussi cette appropriation de la chaîne de la valeur liée aux musiques enregistrées. Comment vous voyez ça?
Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet aussi du côté de la musique enregistrée, hein, après des années après cette fameuse crise du disque, avec le système du streaming qui fonctionne bien. Après, ça pose beaucoup de questions. On a d'abord un questionnement autour du modèle de rémunération entre le système qui est en vigueur aujourd'hui, qui s'appelle le système du market-centric, et puis pourquoi pas tendre vers un système du user-centric qui serait plus fondé sur les écoutes réelles des auditeurs pour rémunérer les artistes. Un peu comme si on faisait la comparaison avec un marché physique, il semblerait complètement incongru que quand vous allez acheter le CD de tel artiste, la rémunération parte vers un autre artiste. Bon, pour le streaming, nous on porte exactement la même revendication d'aller vers un système user-centric. C'est notre revendication. Et puis il y a aussi un autre sujet dans le cadre du streaming, c'est la question des fake streams, post-stream, qui sont générés par des robots. Très clairement, et en fait vous pouvez acheter en ligne, j'en sais rien, des milliers de fake streams, et ensuite ça va venir rémunérer tel ou tel artiste, alors qu'en fait personne au bout du fil n'a écouté cet artiste. C'est en fait des robots qui ont généré ces fausses écoutes juste pour déclencher de la valeur. Le CNM avait d'ailleurs pu publier une étude sur le sujet. On voit qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'abus et que le système est quand même aussi mal utilisé, avec des comptabilisations de streams qui n'ont pas lieu d'être, ou avec des brubans, etc. Et donc, il est important qu'on arrive à rendre ce système plus vertueux, que ce soit pour les artistes, pour les producteurs phonographiques, pour avoir un système qui rémunère en fait les différentes parties de la chaîne de valeur à leur juste rémunération, et sans qu'il y ait d'abus ou de malversation.
On reste dans un sujet politique, décidément, puisque à l'occasion de ces 20 ans, le SMA participe au festival Minuit avant la nuit à Amiens, près de chez nous, et propose une table ronde sur le thème « L'influence de l'extrémisme sur la culture ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le pourquoi de cette table ronde, et puis nous la présenter à nouveau ?
Tout à fait. Donc là, en fait, à l'occasion des 20 ans du SMA, on a décidé de sillonner l'ensemble des régions et dans chaque région de proposer un débat sur un sujet qui est en prise avec l'actualité de notre secteur, donc des musiques actuelles. On a commencé en février, on est allé du côté de la région sud, la région PACA. On a parlé de la place des femmes dans la filière musicale. On est ensuite allé en Pays de Loire. On a malheureusement parlé des coupes budgétaires dans la culture. On est allé encore récemment en Nouvelle-Aquitaine pour parler de la prise de position de la filière en vue des prochaines échéances électorales. On est allé en Grand Est où on a parlé des questions d'attractivité d'emploi dans notre secteur. Et il nous a semblé important dans ce Tour de France de parler aussi de l'influence, notamment de l'extrême droite, hein, dans la culture. En fait, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce sujet? C'est que malheureusement, ce sujet est de plus en plus prégnant, notamment depuis le printemps 2023. On a eu à ce moment-là plus d'une dizaine de sabotages ou de tentatives de sabotage ou de censure de concerts de musique actuelle par des individus extrémistes, intégristes, qui estimaient en fait que ces concerts n'avaient pas lieu d'être soit à l'aune de leur propre morale. À cela, on peut aussi cumuler en fait des prises de parole de différents élus d'extrême droite, que ça soit dans des conseils régionaux, que ça soit aussi au Parlement, qui vont venir vraiment s'opposer aux musiques actuelles, alors soit par rapport à des projets de concert, hein, sur des aspects de la diffusion, mais aussi par exemple sur des projets d'action culturelle, sur des projets d'éducation artistique aussi, par exemple dès lors qu'il y a des projets d'ateliers en non-mixité, on voit que ça pose problème, et donc il nous a semblé important de parler de ce sujet et de dézoomer un peu et de pas parler uniquement des musiques actuelles, mais de parler au-delà dans la culture, parce que malheureusement, on fait le constat que dès lors que dans la culture, on a des propositions artistiques qui vont toucher à la question du genre, par exemple, à la question de la religion, à la question de la migration ou à la question de l'écologie, c'est de plus en plus compliqué. Autant c'était des sujets qui passaient vraiment sans problème il y a une dizaine, même encore cinq ans avant la crise sanitaire, mais qui posent manifestement de plus en plus problème. Et on a quand même une loi qui s'appelle la loi LCAP, Liberté, Création, Architecture et Patrimoine, qui consacre bien le principe de liberté d'expression. Et donc il nous a semblé important qu'on puisse en débattre et pour rappeler ces principes absolument fondamentaux dans une démocratie.
Peut-être un petit mot sur les différents invités, notamment voilà, l'ancien directeur de l'escapade d'Hénin Beaumont.
Oui, tout à fait. Donc on a voulu donner un contexte régional à l'occasion de cette table ronde qui tient à Amiens. Donc on a invité des personnalités des Hauts-de-France. Donc en effet, on aura dans le panel Jean-Yves Coffre, qui est donc l'ancien directeur du théâtre L'Escapade à Hénin Beaumont, hein, qui a donc été repris par la mairie de la commune, puisqu'il y avait un désaccord avec le projet, qui est pourtant un projet historique, hein, qui date des années 70. Donc c'est une vraie perte pour le territoire. On aura aussi autour de la table un universitaire, qui est maître de conférence à l'université de Mons en Belgique, qui est spécialiste, qui est historien et politologue, et qui va venir nous parler, Stéphane François, de l'influence de l'extrême droite dans la culture. On aura aussi une élue du Conseil régional des Hauts-de-France, Margot Rouchet, qui nous donnera aussi son point de vue en tant qu'élu. Et puis, on aura également Héloïse, qui représentera l'association Atacafa, hein, qui a organisé un concert justement au printemps 2023, qui a été fortement attaqué par des individus, puisqu'ils estimaient, ces individus, que ce concert n'avait pas à se tenir dans une église, alors même bien évidemment que le prêtre et la paroisse avaient donné leur aval. Donc elle viendra un peu expliquer comment tout ça s'est passé. Et puis, pour compléter le tour de table, on aura Stéphane Frima, qui nous fera faire un pas de côté, qui n'est pas dans le secteur des musiques actuelles, qui, lui, dirige un théâtre, une scène conventionnée à Armentières, dans la métropole lilloise, et qui viendra aussi nous faire part de son point de vue dans les autres esthétiques. Est-ce qu'il y a aussi un sujet de ce côté-là? Et la table ronde sera modérée par Sofian Fanen, qui est fondateur et journaliste pour le Média des Jours.
Aurélie Andouche, merci. Et puis, bon anniversaire alors.
Merci pour votre attention et merci pour vos bons voeux.
Aurélie Andouche, directrice du SMA, le syndicat des musiques actuelles, qui fête cette année ses 20 ans et qui organise donc cette série de tables rondes. Et le prochain rendez-vous, c'est ce vendredi 13 juin de 15h30 à 17h30 à Amiens, amphithéâtre Lavoisier de l'université de Picardie Jules Verne rue Saint-Leu, sur le thème « L'influence de l'extrémisme sur la culture ». Table ronde organisée dans le cadre du festival Minuit avant la nuit.